before a storm breaks.
Alors on change complètement d'univers avec toi Céline, un univers qu'on a déjà un petit peu évoqué au début de l'émission. Alors une tarte à la crème des réformes d'un gouvernement et un exercice périlleux pour un domaine qui semble irréformable en France, l'éducation. Et cette fois, pas de 49-3 pour imposer la réforme, c'est ça?
Alors oui, souvenez-vous, la jeunesse, c'était l'une des cibles et l'éducation l'une des priorités de la campagne de François Hollande en 2012. En ce moment, c'est sa ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, qui est sous le feu des critiques. Elle qui conduit de front deux réformes très contestées, tant par les enseignants qui sont descendus dans la rue mardi 19 mai, que par des hommes politiques de tous bords. Le décret sur la réforme du collège a pourtant paru au journal officiel le lendemain, c'est-à-dire mercredi dernier.
Et donc on a entendu parler de ces réformes avec des points qui font polémique, comme les langues anciennes, la fin des classes bilingues. Mais au fond, qu'est-ce qu'elles vont apporter concrètement?
Alors, tu as raison Clément, il faut clarifier les choses. D'abord, on parle de deux réformes que ses adversaires ont assez vite cataloguées sous l'expression « réforme de Najat Vallaud-Belkacem ». Une réforme du collège d'un côté, qui prévoit entre autres la disparition des classes bilingues, l'interdisciplinarité et un nouvel aménagement des heures de cours pour chaque matière. Ensuite, une réforme des programmes, en particulier des programmes d'histoire, qui n'est pas encore terminée.
Et le battage médiatique s'est d'abord fait entendre autour des langues anciennes.
Oui, effectivement, on a beaucoup parlé de la disparition des options grec et latin au collège, jugée, je cite, « trop élitiste » par le ministère au vu des chiffres. Effectivement, ça concerne 20% des collégiens pour le latin et seulement 3% pour le grec. Il faut savoir que ces options seront remplacées par l'un des 8 nouveaux enseignements pratiques interdisciplinaires, ou EPI, qui s'appellera « Langue et culture de l'Antiquité ». Face à la mobilisation, le ministère prévoit aussi un enseignement de complément en latin seulement, à raison d'au moins 1 à 2 heures par semaine, en plus, selon les niveaux. Et puis, outre ce saupoudrage des langues anciennes, ce qui a suscité la critique, c'est la disparition des fameuses classes bilingues. Le principe?
Oui, tu nous l'expliques.
Eh bien, dès la 6e, avoir la possibilité de suivre une seconde LV2. Il y a 10 ans, en fait, le dispositif avait été mis en place pour répondre aux inquiétudes des professeurs d'allemand et tenter d'enrayer la chute des effectifs. Dans le même temps, la nouvelle réforme prévoit quand même d'imposer aux collégiens une seconde langue vivante dès la 5e. Et puis, la nouveauté de cette réforme, c'est aussi l'accent qui est mis sur l'interdisciplinarité qui est déjà expérimentée dans certains collèges. Alors, à travers les 8 EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires, ça peut nous sembler être une bonne idée de croiser ainsi les disciplines, mais les professeurs de collège sont circonspects. Sur la base du volontariat, oui, mais imposer ces enseignements représente une atteinte à leur liberté d'enseigner. De plus, leur utilité en termes de résultats scolaires reste à prouver.
Oui. Et si tu nous parlais maintenant de l'autre réforme, celle des programmes, parce que, en bon historien, je suis curieux de savoir ce que le gouvernement nous réserve.
Et oui, l'histoire, Clément, une autre pomme de discorde ultra classique dans les réformes des programmes. Alors pour cette nouvelle mouture, Najat Vallaud-Belkacem a mis en avant l'idée de faire la distinction entre des thèmes qui seraient obligatoires et d'autres laissés au choix des enseignants. Le projet est encore soumis à la consultation de ces derniers jusqu'au 12 juin. Alors les critiques portent sur les thèmes censés être obligatoires. Comme d'habitude, les partisans du roman national critique l'histoire repentance, qui privilégierait l'histoire de la colonisation, de la traite négrière. Les partisans proches de la droite et de l'extrême droite dénoncent des enseignements qui négligeraient l'histoire de la chrétienté au profit de celle de l'islam. Bref, on n'hésite pas à faire des amalgames. Pour information, les Lumières et l'histoire de l'héritage chrétien font bien partie des thèmes obligatoires. Donc des amalgames d'autant plus faciles que le projet, je cite, « manque de clarté et qu'il est mal fagoté » selon les propos du président du CSP, le Conseil supérieur des programmes, un certain Michel Lussault, qu'on connaît bien ici à l'ENS.
Qu'on embrasse.
C'est vrai que parler de milieu aquatique stabilisé pour la piscine, ça prête à rire et surtout à l'agacement.
Alors le projet de réforme des programmes doit être revu après la consultation des enseignants, avec un droit de regard des historiens comme Pierre Nora ou Jean-Pierre Azéma. Alors ça c'était sur le fond, mais sur la forme, est-ce qu'on peut observer des lignes de fracture si évidentes entre la droite et la gauche?
Alors si évidente, non Clément, et c'est pourquoi les enjeux peuvent nous paraître parfois un petit peu brouillés. L'éducation est un thème facilement instrumentalisable pour, mais aussi contre un gouvernement, surtout s'il est impopulaire. Et si je vous dressais la liste de ceux qui s'opposent actuellement à ces deux réformes, je pourrais vous parler d'une opposition violente, celle des 200 parlementaires signataires de la pétition de Bruno Le Maire, en pointe sur ce dossier dans l'opposition, celle de Nicolas Sarkozy bien sûr, qui a qualifié de médiocre la réforme, Et à gauche, celle de Jack Lang, de Julien Drey, de Régis Debray, de Jean-Marc Ayrault, de Ségolène Royal qui a appelé à la prudence, sans parler des syndicats qui ont donc appelé mardi dernier à la grève. D'ailleurs, preuve de l'échauffement du débat, Najat Vallaud-Belkacem n'a pas manqué d'attaquer ce qu'elle a appelé les pseudo-intellectuels. Une riposte maladroite qui témoigne d'un agacement qu'il aurait mieux valu cacher et qui ne témoigne pas non plus d'une grande ouverture aux voix contraires. De l'autre côté, pour les partisans, on trouve des fédérations de parents d'élèves, des syndicats étudiants, la CFDT, François Hollande et Manuel Valls venus sauver le hussard Vallaud-Belkacem et le très libéral Institut Montaigne. De quoi vous faire tourner la tête.
Oui, parce que du coup, elle se situe où les vraies oppositions dans ce ballet?
Alors, c'est à la fois difficile et assez aisé à dire. Difficile parce que cela dépend aussi du contexte politique. Certains en profitent pour occuper le devant de la scène, pour se positionner comme Bruno Le Maire qui occupe très habilement l'espace médiatique devant Nicolas Sarkozy. On ne reviendra pas non plus sur les enjeux identitaires des programmes d'histoire que des partis comme le FN entendent accaparer. Et puis si les lignes sont brouillées au sein même des partis, c'est parce que la frontière entre conservatisme, sans que ce soit une insulte, et avancée dans la pédagogie s'est toujours posée. On s'insurge peut-être un peu inutilement contre la déclaration de Madame Vallaud-Belkacem qui a osé dire qu'on s'ennuie au collège, tout en pouvant défendre tout à fait justement le maintien des humanités au programme comme un instrument d'ouverture d'esprit et d'ascension sociale. Car le débat, même si la gauche veut l'éviter à tout prix, s'est peu à peu cristallisé entre deux pôles. La supposée passion de l'égalitarisme à gauche qui nivellerait le niveau par le bas et celle de l'élitisme à droite. Cette vieille opposition entre les républicains et les pédagogues, entre les adeptes du roman national et ceux de l'histoire globale, doit en tout cas faire face à une réalité, celle de l'échec du collège tel qu'il fonctionne aujourd'hui, avec de plus en plus d'élèves en décrochage qui arrivent avec des lacunes immenses pour simplement lire et écrire. Mmh. Et ça, pas même Nicolas Sarkozy qui avait prôné le retour de l'autorité dans les salles de classe, qui avait voulu mettre en place des moments symboliques. Souvenez-vous de la lecture de la lettre de Guy Môquet, un flop monumental. Nicolas Sarkozy, qui s'était toujours refusé à entreprendre une réforme de l'éducation, ça donc, ça n'est pas lui qui pourra le dire le contraire.
Alors merci Céline pour cette mise au point sur la réforme du collège. Je rappelle, tu l'as déjà évoqué, mais cette réforme du collège nous touche particulièrement à l'ENS de Lyon, puisque le directeur du Conseil supérieur des programmes n'est autre que Michel Lussault, professeur de géographie à l'ENS et actuel directeur de l'IFE, l'Institut français de l'éducation.
Ah.
Et oui, tout s'explique.